Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes conscient que c'est une grâce d'être sous le regard du Seigneur? Est-ce que vous en êtes pleinement conscient? Ah oui, c'est une faveur. Nous allons lire un premier verset dans l'évangile de Marc au chapitre 13 et au verset 37. Marc chapitre 13, verset 37e. Vous avez certainement lu tous ce verset, car quand on découvre l'évangile, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on découvre l'évangile? On lit quoi? Les évangiles. En principe, un chrétien, dès qu'il donne son cœur à Jésus, il est poussé à lire les quatre évangiles. Donc, ce texte, vous l'avez lu, si vous êtes engagé avec le Seigneur. Marc, chapitre 13, verset 37. « Ce que je vous dis, je le dis aux nouveaux chrétiens. Veillez. » Comment non? Je n'aime pas qu'on me contrarie. Alors, on le relit, s'il vous plaît, pour que... les choses soient claires. Ce que je le dis aux baptistes. Veillez. C'est bien ça? Non. Pardon. Ce que je vous dis, je le dis aux pasteurs. Veillez. On pourrait continuer, d'accord? C'est pour insister sur le mot. Je le dis à tous. Ce sont des paroles sérieuses. Ce sont des paroles toutes simples. Le Seigneur l'a dit aux chrétiens de tous les siècles, tous les véritables chrétiens ont lu ce verset, tous les chrétiens savaient qu'ils devaient tous être sérieux avec le fait de veiller. Car chaque fois que le Seigneur parle de son retour, d'être prêt à le rencontrer, d'avoir de l'huile dans nos lampes, le seul mot d'ordre, c'est veiller. D'ailleurs, ce soir, nous sommes venus pour ça. Oui ou non? Pour servir? Parce qu'on a besoin de prier pour les autres. C'est un fardeau qu'on a, c'est biblique, prier les uns pour les autres. On prie à haute voix, on prie dans son cœur. L'Église est une maison de prière. Mais ce qui nous rassemble ce soir, c'est ce besoin que l'on a de continuer à veiller. C'est quelque chose de sérieux. Quand Jésus parle, du jour où, quand il reviendra, le royaume de Dieu sera semblable à ces vierges, vous savez, qui attendent, et il n'y en a que la moitié de prêtres. Il dit, je vous dis une chose, veillez, car vous ne savez pas quel sera le jour ni l'heure où je reviendrai vous chercher. Alors, ça serait très intéressant de lire, par exemple, dans Matthieu, chapitre 24, et je vous encourage à le faire d'une manière personnelle, car vous savez, la prédication, c'est une chose. Mais le culte personnel, c'est quelque chose d'important. À tel point que lorsque Jésus enseigne comment prier, il dit « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Vous aimez manger chaque jour? Est-ce que vous aimez prendre votre repas? Vous avez pris votre repas? Combien de repas avez-vous pris aujourd'hui? Un? Deux? Trois? Est-ce que ce n'est pas une grâce de vivre dans un pays où presque tout le monde peut prendre trois repas par jour, sans compter ceux qui en prennent quatre, à quatre heures des fois certains. Mais est-ce que c'est une grâce? Combien on aime bien, il faut que ça soit telle température. À moi, les frites, il faut que ça soit bien bouillant. C'est une grâce. On prend soin de notre cœur, et pourtant, de notre corps. Et pourtant Dieu dit, alors vous pourriez me citer des versets. Est-ce qu'il y a un verset qui indique qu'il faut veiller chaque jour? À part celui que je viens de citer, un dans l'Ancien Testament. Allez, citez-moi un. Je verrai si vous êtes dans une bonne église. Est-ce qu'il y a des versets précis où il est dit chaque jour? Comment? De veiller. Moi, je veux que ça soit précis. Alors, on le lit. Mettez avec moi. Lisez-le avec moi. Deutéronome. Alors que je ne me trompe pas. Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Ce sont des versets que moi je lis régulièrement, parce que vous savez, c'est un petit peu comme le sportif qui s'entraîne sans arrêt. Moi, j'ai été presque choqué quand j'ai entendu qu'au Tour de France, quand ils font le Tour de France, ça dure combien? 21 jours à peu près. Moi, j'ai été choqué quand j'ai appris que le jour de repos, vous savez combien ils font de kilomètres les sportifs? Le jour de repos, pour se reposer. Vous ne le savez pas? 80 kilomètres minimum. Le jour de repos, pour garder, alors que le lendemain, ils vont refaire 200 kilomètres. Et il y a des témoignages comme ça qui nous indiquent la beauté de veiller. Regardez ce verset. Moi, c'est un verset que j'ai appris par cœur. Deutéronome chapitre 4, verset 9. « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. » C'est pas un beau verset, ça ? « Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. » Pourquoi ? « De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. » Veille attentivement. Vous n'avez jamais vu les gens dans les supermarchés ? Quand ils choisissent de la nourriture aujourd'hui, ils sont là en train de regarder s'il n'y a pas des édulcorants, s'il n'y a pas des conservateurs, s'il n'y a pas et ceci. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas manger n'importe quoi. Ils ont raison pour leur corps, quoiqu'on ne sait pas tout ce qu'il y a à côté, mais c'est bon. Eh bien, Dieu nous demande de veiller sur notre âme. Alors, j'aimerais partager avec vous. Alors, il n'y a que l'embarras du choix, parce que c'est un sujet qui revient énormément dans la parole de Dieu. Mais j'ai pensé à cette... Alors, je vous avais dit que dans Matthieu, par exemple, il est dit dans Matthieu 24, ce qui se passera quand Jésus va revenir. Quand Jésus va revenir, il y aura la paix sur la terre. C'est comme ça, quand Jésus va venir chercher l'Église. Moi, quand je lis la Bible... Je dis que quand Jésus va revenir, ça sera comme du temps de Lot et comme du temps de... Non, ce n'est pas écrit. Il y a un autre texte, parce que Lot, c'est le temps de... C'est pareil, c'est Sodome et Gomorre. Mais il y a un autre exemple. Il a dit que ça sera comme du temps de... Et du temps de Noé, qu'est-ce qu'il y avait sur la terre ? La terre était remplie de violence. Et Jésus dit, ce qui est arrivé du temps de Noé, ça arrivera de même. Au temps du Fils de l'homme. Il y a des gens, ils pensent qu'il y aura un grand réveil avant l'enlèvement de l'Église. Moi, je vous avoue que quand je lis ma Bible, je n'y crois pas trop. Par contre, je crois qu'il y en aura un après. Parce qu'il y a une grande foule qui va se convertir pendant la grande tribulation. Et je peux vous dire que les vierges folles qui ne seront pas prises à l'enlèvement de l'Église, eh bien, j'espère qu'ils vont vraiment de tout leur cœur venir ou revenir au Seigneur après l'enlèvement de l'Église. Vous comprenez ce que je veux dire ? Cette grande foule que j'en vois dans l'Apocalypse, il est certain qu'elle fait partie de tous ces gens qui se réveilleront. Alors oui, on parle beaucoup d'un réveil qui va venir. Moi, je suis convaincu qu'il viendra après l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, tout ce qui est écrit nous indique que ceux qui seront prêts, c'est ceux qui vont veiller. Alors on va prendre quelques exemples que j'ai pris il y a quelques années. Ce sont les 7 textes où moi, qui m'ont fort interpellé. Quand je me suis converti d'ailleurs, les 7 fois où Jésus utilise l'expression « les pleurs et les grincements de dents ». Vous avez lu cette expression dans la Bible ? Vous l'avez lu ? Ça ne vous a pas fait drôle la première fois que vous avez lu ça ? Non ? Qu'est-ce que vous avez pensé la première fois où vous avez lu ? C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette expression, elle y est 7 fois dans 7 contextes différents et il n'y a que Jésus qui l'utilise. Alors la première fois... C'est dans Matthieu au chapitre... Alors que je ne me trompe pas, je ne l'ai pas marqué. Alors, dans Matthieu au chapitre 8. Matthieu chapitre 8, Jésus parle d'un centenier qui fait une expérience merveilleuse. Merveilleuse avec Dieu. Il n'est pas encore chrétien. Enfin, quand on comprend le texte, il n'est pas encore chrétien. C'est un officier de l'armée. Il a appris que Jésus est puissant. Donc, il va faire une expérience extraordinaire. Par la foi. Donc, si un inconverti est capable de faire une expérience par la foi, mes frères et sœurs, est-ce que nous ne pourrions pas, nous, en tirer ombrage, en tirer des leçons ? D'ailleurs, Jésus va dire, on va lire que ce qui nous intéresse, Matthieu chapitre 8, verset 10, après l'avoir entendu, donc parce qu'il y avait des religieux, n'oubliez pas que c'était un Romain, un occupant, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en Israël, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Je vous le dis, c'est pas encore un chrétien. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, c'est nous ça, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais, tenez-vous bien, qui ? Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et cet homme, qui n'était pas encore un chrétien, eh bien, va expérimenter la puissance de Dieu, et certainement qu'il a pu le devenir par la suite. Le contexte, c'est quoi ? C'est une foi, c'est la foi. Et ce soir, nous sommes sous le regard de Dieu, nous devons nous poser la question, voilà, est-ce que ma foi est vivante? Bon, je suis là, je suis à l'église, mais est-ce que ma foi, elle est vivante? Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu entend vos prières quand vous priez? Est-ce que vous le croyez? Moi, j'entends souvent, oh, je prie, je ne sais pas à quoi ça sert. Eh bien, ça, ce n'est pas bon signe. Ce centenier, je le répète, qui n'était pas encore chrétien, avait compris l'autorité du Seigneur. Le Seigneur, oh, M. Puette le disait tout à l'heure avant qu'on commence la prière, il citait ce verset de Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et je peux vous dire que ce centenier, il l'avait compris. Et les gens qui connaîtront les pleurs et les grincements dedans, ce sont ces gens qui auront été à l'église, mais qui auront une foi qui n'en était pas une. On peut aller à l'église et ne pas avoir la foi, oui ou non? On peut lire la Bible et ne pas avoir la foi? On peut être responsable dans l'église, on peut même prêcher et ne pas avoir la foi. Pas parce qu'on prêche qu'on a une grande foi. Mais la foi, c'est, voilà, Seigneur, tu l'as dit, je le crois, tu l'as dit. Tu as dit que le lendemain aurait soin de lui-même, eh bien, je le crois. Vous le croyez, ça? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vraiment vous croyez que Dieu pourvoira? Vous ne me répondez pas beaucoup. Bon. C'est une loi. Et les fils du royaume, quand Jésus parle des fils du royaume, vous savez, les pharisiens, ils ne devaient pas être contents. Quand Jésus a dit ces choses, je peux vous dire, bon, j'aurais aimé voir le regard de certains croyants. Ils devaient être furieux. Vous vous rendez compte? Jésus est en train de dire, Jérusalem était, Israël était sous occupation romaine. Et c'était un officier, certainement, avec ce, puisque c'était un officier, vous savez, ces officiers romains, là, vous l'avez vu dans Astérix et Obélix, hein, qui ont des capes rouges, là. Vous avez vu? Vous avez déjà lu un Astérix et Obélix? Oui? Bon. Eh bien, c'est les officiers, c'est eux qui avaient des capes rouges. Alors, ils devaient être là, mais ils devaient être furieux. Comment un Italien, un Romain qui nous oppresse, qui nous pique nos impôts, qui nous pique notre argent, cet homme, il sera au ciel? Et nous, qu'on est fils d'Abraham, les fils du royaume, mais c'est inacceptable. Mais oui, il y aura des pleurs. Parce que les gens n'auront pas pris au sérieux ces choses. Et quand Jésus dit, ce que je le dis à tous, veillez, eh bien béni soit le Seigneur pour ces moments qu'on passe sous son regard. Parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Gloire à Dieu. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de dire, mais moi je ne veux pas ressembler à ces croyants, ceux qui sont là de père en fils, comme ces pharisiens qui étaient là depuis des millénaires et qui étaient vraiment loin de Dieu. Je veux une foi vivante. Je veux croire, Seigneur, que si je te demande quelque chose qui correspond à ta volonté, tu vas l'accomplir. Alléluia. Tout à l'heure, vous allez rentrer à la maison, vous et moi. Peut-être que vous aimez vous mettre à genoux au pied de votre lit, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a des positions qu'on aime pour prier. Seigneur, je crois que tu m'entends. Je veux une foi vivante. Ah oui. Ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux. Pourquoi Jésus a-t-il utilisé une expression aussi sévère? Parce que quand même, c'est l'apôtre de l'amour, Jésus. Les gens du monde, si vous dites oui, Jésus est amour, ils ne viendront même pas à l'idée de parler d'une parole sévère dans la bouche de Jésus. Le mot Géhenne, qui parle de l'enfer, combien de fois il en est parlé dans la Bible, dans le Nouveau Testament? 12 fois, oui. C'est vous qui avez dit 12? C'est bien, vous remplacerez Michael. 11 fois, c'est Jésus qui en parle. Sur les 12 fois, 11 fois, c'est Jésus qui en parle. C'est écrit, c'est pour qu'on comprenne bien qu'il y a des choses importantes. Éveiller, c'est pas dire, oh ben, je vais à l'église, je prie, je reste. Non, c'est, je veux une foi vivante. Le contexte de cette parole de Jésus, c'est la foi. Donc, je veux une foi vivante. Moi, je veux prendre mon repas avec Abraham, Isaac et Jacob et dans le royaume des cieux. Ça vous intéresse, ce repas-là? Ça vous intéresse? Vous êtes inscrits? Vous y êtes inscrits déjà? En tout cas, vous êtes invités. Tous les hommes sont invités. Quel drame en enfer, ces gens qui vont être passés à côté, parce qu'ils n'auront pas pris à cœur ces choses solennelles. L'homme, il ne vit pas de pain seulement. Merci Seigneur pour le pain. Peut-être que vous mangerez après la réunion. Bénissez Dieu pour la nourriture. Peut-être que vous avez une armoire chez vous qui est pleine. J'aime le dire. Peut-être que vous avez un congélateur qui est plein. Bénissez le Seigneur. Mais bénissez encore plus Dieu pour la nourriture spirituelle. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, il l'a dit à tous. Le deuxième texte, c'est dans Matthieu chapitre 13. Mais vous pouvez le faire. Hein. Vous avez une concordance. Voilà. Vous pouvez tous être des petits pasteurs. D'accord ? Dans Matthieu, au chapitre 13, au verset 36, il y a une parabole. Alors, le contexte, on ne peut pas tout lire. Mais c'est quand même bien de le lire. Matthieu, chapitre 13, verset... Alors, si vous prenez des notes, verset 36 à 43. C'est dans un contexte, on va voir le contexte. Verset 40. Mais pour vous, pour votre édification personnelle, vous relirez à partir du verset 36. « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende, pour entendre, entende. » Donc le deuxième texte où Jésus parle des pleurs et des grincements dedans, il est là. Et le contexte, c'est l'iniquité et les scandales. Dans le royaume de Dieu, il peut y avoir des scandales. Peut-être que vous avez vu des scandales dans l'Église. Le mot scandale, c'est un mot qu'on utilise à tort et à travers. Dans le monde, on l'utilise, mais en vérité, c'est un mot spirituel, puisqu'il est, c'est Jésus qui l'utilise. Et c'est un mot qui indique que c'est nous les chrétiens, qui par notre mauvais témoignage, éloignons les gens du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui s'éloignent de Dieu, d'eux-mêmes. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des gens qui perdent la foi, qui abandonnent Dieu parce qu'ils abandonnent Dieu? Oui, c'est leur choix. Il y a des gens, ils abandonnent la foi. C'est écrit que dans les derniers jours, il y en a qui abandonneront la foi. C'est leur responsabilité. Et quand Jésus dit « mieux vaudrait pour certaines personnes qu'on leur ait mis une pierre au cou et qu'on les jette dans le fleuve » plutôt qu'ils ne scandalisent un enfant. Quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, c'est pas bien. Bien sûr que c'est pas bien. Mais c'est comme ça. Dieu ne nous force pas. Mais scandaliser les gens, c'est-à-dire que les croyants, les églises, par des comportements, éloignent les gens de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Le scandale, c'est nous qui éloignons les gens de Dieu. Et ça, je peux vous dire que ça va être dur au jour du jugement. Et le deuxième texte, où il est parlé des pleurs et des grincements des dents, il nous est parlé de ces gens qui commettent des scandales et qui commettent des iniquités. Il y a des gens qui s'imaginent que tout va bien finir, que même à partir du moment où on est chrétien, qu'il n'y a pas de problème. Ce texte est catégorique. À la fin du monde, il y aura un tri entre les chrétiens qui vivront dans la piété et ceux qui vivront dans l'iniquité. Donc que ce soit bien compris, c'est quelque chose de très sérieux. D'ailleurs, dans le troisième texte, la parabole du filet, c'est juste après, Matthieu 13, 47 à 51, vous remarquerez qu'il pose une question. Vous avez remarqué que Dieu pose souvent des questions. Dans le livre de Job, il y a des centaines de questions. Je ne sais pas si vous avez lu le livre. Dieu pose des centaines de questions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi Dieu pose une centaine de questions? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Qu'il y ait tant de questions qui soient posées dans la Bible? C'est pour nous faire réfléchir. Pour nous faire réfléchir. Une question, c'est pour nous faire réfléchir. Et quand il dit au verset 51, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Oui, répondirent-ils. Bon, la suite prouve qu'ils n'avaient pas tout à fait compris. Mais ça, c'est pareil pour nous. Nous aussi, on n'a pas tout compris. C'est pour ça que nous aimons nous retrouver dans la maison du Seigneur pour entendre, réentendre, réentendre. Et béni soit Dieu pour sa patience. Vous ne trouvez pas? Comme on l'a vu dimanche, vous ne croyez pas que Dieu a été patient avec Jacob? Eh bien, heureusement, il sera avec nous. C'est sûr. Alors, le contexte. Alors, on lit à partir du verset 47. « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet, jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. » Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Donc, troisième texte, la parabole du filet. Quel est le contexte? Le contexte, c'est la différence entre les méchants et les justes, donc la différence entre les gens qui sont pieux et ceux qui ont l'apparence de la piété. L'apparence de la piété, c'est un truc de fou. Moi, je crois que c'est la chose qui m'a le plus choqué. Je vais vous expliquer. Quand je me suis converti un mardi. Bon, j'avais jamais été à l'église. J'étais dans une famille païenne, dans les ténèbres et tout, donc j'avais jamais été à un culte. Jamais. Je me suis converti un mardi et je travaillais, écoutez bien, je travaillais en boîte de nuit. Je travaillais en boîte de nuit, donc le samedi soir, je faisais mon travail et il y a un gars qui vient. Il y a un gars qui vient et il me demande, je m'appelle une bouteille de Chivas. À l'époque, ça valait, je ne sais pas moi, ça valait 500, 600 francs. Vous voyez, donc ça valait plus de 100 euros à l'époque, une bouteille de Chivas. Bon. Et le gars, il fumait des cigares et tout, Chivas, toute la nuit. Le premier culte, qui je te vois à l'église, debout, en train de lever les bras devant moi, c'était lui. Premier culte. Le premier chrétien que j'ai vu, c'était un gars qui vivait dans des conditions. J'ai appris la suite, c'était vraiment pas mal. Et moi j'ai dit, ben ça m'est égal. Il fait ce qu'il veut, moi j'ai donné mon cœur. Ça ne m'a pas du tout perturbé. Mais j'ai compris vraiment que dans l'église, il y a des gens qui ont l'apparence de la piété. Et il n'y a que Dieu qui le voit. Oui ou non? Ça fait mal au cœur, oui ou non? Mais moi ça m'avait choqué et en même temps j'ai dit, non, de toute façon c'est son problème. C'était mon premier culte, je m'en souviens, il était là en train de lever. C'est pour ça peut-être que je suis un peu réticent à certaines choses. Mais mes frères et sœurs, et Jésus en parle, les méchants avec les justes, dans le royaume. On pourrait dire, mais non, dans une église, il n'y a que des justes. Eh bien, écoutez, regardez toute la parole de Dieu, comme vous le voudrez. Déjà, les seuls textes qu'on vient de lire nous prouvent que dans l'église de Jésus-Christ, eh bien, on peut chanter des cantiques et vivre dans l'apparence de la piété. Oui ou non? Ben oui, si vous ne le croyez pas, relisez les textes et vous verrez que c'est exactement ça. Donc, à la fin du monde, c'est écrit, quand Jésus va enlever les chrétiens, seront pris les justes. Les justes, ce ne sont pas que ceux qui ont été justifiés par le sang du Seigneur, ce sont tous ceux qui pratiquent la justice. Voyez, le Seigneur vous exhorte, nous exhorte ce soir à veiller, eh bien on dit, tiens mais c'est sérieux, ben je vais le faire. Je vais reprendre ces textes. C'est pour ça que je vous encourage à noter les textes. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années avant de rentrer dans le ministère. Tout ce que le pasteur donnait comme texte, je le prenais et je le revivais pour mes cultes personnels. Et ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Eh bien, veillez, c'est ça. Dire, Seigneur, ce soir, tu nous exhortes à veiller. Eh bien, je veux apprendre à veiller. Moi, je veux être prêt. Je ne veux pas faire partie de ces hypocrites. Je ne veux pas faire partie de ceux qui ont l'apparence de la piété. Je ne veux pas faire partie de ceux qui vivent, qui vont à l'église et qui vivent en même temps dans le péché, en pensant que ça va bien se terminer. Ce n'est pas vrai. Dans la Bible, il y a trois catégories en vérité. Il y a trois catégories. On sépare souvent, on dit, il y a les chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Mais en vérité, il y a trois catégories. On le voit bien dans 1 Pierre au chapitre 4. On dit souvent, on a raison, n'allez pas dire un pasteur dans une église, Monsieur Gou a dit ça. Mais n'allez pas le dire. Ils ont raison. C'est vrai que d'un côté, il y a les chrétiens et il y a ceux qui ne le sont pas. C'est évident. Mais dans 1 Pierre au chapitre 4. Et au verset 18, il y a cette précision où le Seigneur sépare l'humanité en trois catégories. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on rendra compte à l'enlèvement de l'Église, chaque chrétien rendra compte, alors que le jugement sur les impies viendra après par la colère de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et regardez bien le verset 18. « Et si le juste, première catégorie, se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ?» Donc on voit bien qu'il y a trois catégories. Le juste, les impies, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de piété, et les pécheurs. Les pécheurs, ce sont ceux qui n'ont jamais voulu de Dieu. Vous leur parlez de Jésus, ils disent « Écoute, arrête tes trucs, ça m'énerve, je ne crois pas en Dieu. » Voilà, ça c'est les pécheurs. Ils ne veulent pas de Dieu. Mais les impies, ce sont les gens qui avaient de la piété et qui n'en ont plus. Ce sont des gens qui ne veulent pas avoir de piété. Ils croient en Dieu, mais ils ne veulent pas de piété. C'est exactement l'image du mot des méchants. Le méchant, c'est quelqu'un qui était à Dieu. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans Ésaïe 55, il est dit que le méchant retourne à Dieu. C'est écrit ou c'est pas écrit? Bon, on le lit ou on ne le lit pas? Vous voulez le lire? Vous faites confiance? Vous ne faites pas confiance? On le lit ou on ne le lit pas? Allez, on va le lire. Non, mais c'est important. C'est important parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que le méchant, ce sont les pécheurs. Non, les méchants, ce sont les gens qui ne veulent plus de Dieu. Il faut qu'ils retournent au Seigneur. Regardez, et je vous donne ces textes, vous savez, c'est sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les pécheurs, les méchants, ce sont des pécheurs. Non, les méchants, ce sont des chrétiens qui n'obéissent pas à Dieu. La preuve, Ésaïe 55, verset 7. Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Qu'il retourne à l'Éternel, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y était déjà venu. Oui ou non? Donc c'est bien la preuve que le méchant, et une des preuves, que le méchant, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu ou qui connaît Dieu, mais qui ne lui obéit pas. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que l'apparence de la piété, c'est archi grave. Et c'est un des signes de la fin des temps. Il est dit que dans la fin des temps, les gens auront l'apparence de la piété. Moi, vous savez, en tant que pasteur, bon, je suis pas parfait. Mais je veux dire, bon, en tant que chrétien, j'essaie de vivre la parole. Et c'est vrai que j'ai été peiné de voir par des chrétiens qui ont l'apparence de la piété. C'est-à-dire qu'à l'église, ils vont avoir un vocabulaire très correct. Et dehors, ils vont dire des mots grossiers. C'est ça, l'apparence de la piété. Est-ce qu'un chrétien, il a deux langages, un à l'église et un à l'extérieur? Qu'est-ce que vous diriez si vous appreniez que je dis des gros mots à la maison? Qu'est-ce que vous diriez? En veux-tu, en voilà? Qu'est-ce que vous diriez? Franchement. Et qu'à l'église, que je m'applique à bien m'exprimer, etc. Qu'est-ce que vous diriez? Oui, que c'est un hypocrite. Mais vous diriez qu'il fait la comédie. Il aurait dû faire artiste, comédien. C'est ça l'apparence de la piété. Mais vous savez, je l'ai vu ça. Je l'ai souvent vu. Ça m'a brisé le cœur. Et ça, c'est écrit. Et justement, moi, je bénis Dieu parce que chaque mot est précis. Le Seigneur, quand il parle, c'est toujours intelligent. Et quand il dit à 7 reprises, dans 7 contextes différents, c'est là qu'il y aura des pleurs et les grincements dedans, nous devons nous appliquer à ne pas vivre dans l'apparence de la piété. Si le juste se sauve avec peine, la peine, ça indique un effort. Vous savez, on a peiné pour construire cette muraille, on a peiné. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Vous êtes d'accord? Si le juste se sauve avec peine, c'est vrai que la preuve, c'est que nous avons peut-être dit, ce soir on va aller à la réunion, je suis fatigué, mais j'y vais, j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu. C'est ça, on est continuellement en train de dire, je me fais violence, j'ai besoin de lire. Moi, vous savez, tous les jours, je n'ai pas envie de lire. Hein. Et je sais très bien qu'en tant que pasteur, je dois continuellement remplir mon esprit des choses spirituelles. On se fait peine, il y a de la peine, du travail. Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie? Le chrétien qui n'a pas de piété, et le pécheur, c'est-à-dire celui qui ne veut pas de Dieu. Et c'est pour ça que dans l'église de Jésus-Christ, il y a la prophétie des vierges, où il y en a la moitié qui ne seront pas prêtes. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des gens qui n'auront pas pris au sérieux ces choses. Alors c'est vrai que Jésus pose la question, avez-vous compris toutes ces choses? Oui, bon. Est-ce que nous avons compris toutes ces choses? Est-ce que nous les comprenons? Est-ce que vous les comprenez toutes ces choses? Sérieusement, ce n'est pas une question piège. Hein. Est-ce que nous avons besoin d'y revenir? Bien sûr. Mais on doit y réfléchir. Vous savez, le Seigneur nous a donné à tous la même Bible. On a tous la même parole, on a tous le même Dieu. Et je l'ai dit, mais il n'y a personne au ciel qui dira, oui, t'aurais pu me l'expliquer. Non, on a tous le livre, le Saint-Livre. Que son nom soit béni, comme disait tout à l'heure Olivier, quelle grâce d'avoir notre Bible dans notre langue. Le 4e texte, c'est dans Matthieu 22. Dans Matthieu 22, il y a une invitation. Une invitation au festin des noces. Vous aimez les invitations? Vous aimez les repas? Oui, moi j'aime. Donc, vous avez compris le message? Non. Ça veut dire que vous pouvez m'inviter. Matthieu chapitre 22, il y a une invitation. Plein de gens refusent. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Parlez-leur du Seigneur. Non, on n'a pas le temps de venir. C'est grave. Hein. Et Jésus invite tout le monde. Tout le monde est invité. Et beaucoup de gens refusent. Bon, au verset 11, il se passe quelque chose. On a affaire à quelqu'un qui a accepté l'invitation. Il a accepté l'invitation. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Je vous rappelle que c'est Jésus qui parle, que quand on passera devant lui, bon, nous, c'est pas pareil, parce que nous, on est sauvés. Mais je peux vous dire qu'il n'y a aucun païen qui va pouvoir faire le malin et parler. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, est-ce que ça va arriver, ça? Est-ce que ça peut arriver, cette parabole, que quelqu'un se retrouve au ciel à l'enlèvement alors qu'il n'est pas sauvé? Est-ce que ça peut arriver? Et que Jésus dise, ah, t'es monté comment, toi? Ah, je me suis trompé. Est-ce que ça peut arriver? Bien sûr que non. Ça ne peut pas arriver. Ne seront enlevés que les véritables chrétiens. Le Seigneur ne doit pas se tromper. Là, on a affaire à un homme, il a accepté l'invitation. Il a accepté l'évangile. Il l'a accepté. Mais il n'a pas accepté la condition. Il y a beaucoup de gens qui acceptent l'évangile, mais qui n'acceptent pas la condition. C'est-à-dire se revêtir de Jésus-Christ. C'est-à-dire se revêtir de sainteté. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et cette parabole, je vous rappelle, c'est Jésus qui la donne. C'est quand même sérieux. Il la donne, on en a besoin. Il y a bien sûr des millions de gens qui refusent l'invitation, ils sont irrémédiablement perdus. Mais il y a tous ceux qui ont accepté l'évangile. Ils ont accepté l'évangile, ils sont rentrés dans le royaume de Dieu, moi comme je dis, par la fenêtre de l'ambiance, par la fenêtre de la communion fraternelle. Est-ce que c'est un bienfait la communion fraternelle? Est-ce que c'est bien d'avoir des frères et des sœurs? Est-ce que c'est bien? Vous répondez pas tous. Mais vous réalisez certainement pas. Est-ce que c'est pas une bénédiction d'avoir des frères et des sœurs? Et il y a des gens, ils rentrent dans l'église, ah moi je suis venu à l'église parce que j'étais tout seul, maintenant j'ai rencontré une famille, je suis content. Ben oui, mais c'est bien. Mais c'est pas ça, c'est pas que ça l'Église. Ça a intérêt à y être, parce que ça fait partie des piliers de l'Église primitive, il persévérait dans la communion fraternelle. Ça a intérêt à y être. Mais on n'entre pas dans le royaume de Dieu que pour ça. On entre dans le royaume de Dieu parce que Dieu devient notre Père par le sang de Jésus-Christ. On entre par la porte. Et Jésus a dit, je suis la porte. Si vous avez accepté Jésus-Christ, si vous croyez qu'il est mort au calvaire pour le pardon de vos péchés, vous êtes sauvés. Si vous vous êtes repentis. Et là, cette parabole, je le répète, elle est dans la Bible. Tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, n'est pas dans les Saintes Écritures. Mais ça y est, on en a besoin. On n'entre pas dans le royaume de Dieu comme ça. Il y a des gens, ils demandent le baptême. Pourquoi tu prends le baptême? Mais je prends le baptême parce que mes deux sœurs prennent le baptême. Pourquoi vous prenez le baptême? Oui, parce qu'elles m'ont dit que ça serait bien que Dieu me bénirait, alors je prends le baptême. J'ai dit, mais on ne prend pas le baptême parce que même on ne prend pas le baptême pour être béni. On prend le baptême parce qu'on s'engage avec le Seigneur à le suivre. Même si on ne comprend pas tout, le baptême, je renonce au monde, je renonce au péché, je renonce au diable, je veux la grâce de Dieu. Le baptême, c'est sérieux. Et s'il y a tant de Trafalgar dans les églises, s'il y a tant de scandales, c'est parce que les gens ont pris le baptême sans passer par la repentance, la conversion et la nouvelle naissance. Et c'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Il y aura des pleurs et des grincements dedans pour ces gens-là, parce que peut-être nous en sommes responsables, peut-être nous les pasteurs, les chrétiens, nous sommes responsables de ne pas avoir peut-être donné le meilleur des témoignages. Moi j'ai entendu des gens prendre le baptême. Et dernièrement, écoutez, il y a un gars qui m'a dit, le pasteur m'a dit, prends le baptême, ça fera plaisir à l'église. Et le gars, il avait dit, je ne suis pas prêt. Mais le pasteur, il y a des pasteurs, on sent cette spiritualité profonde. Prends le baptême, ça fera plaisir à l'Église. Non mais, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, mais enfin, c'est quand même inquiétant. Quand on prend le baptême, moi, enfin, je ne sais pas, j'avais vraiment donné mon cœur à Jésus. Et pas pour 3 semaines, jusqu'au mon dernier souffle. Quand on entre dans le baptême, il y a des conditions. Il faut se revêtir de Jésus-Christ. C'est écrit dans la Bible, revêtez-vous de Jésus-Christ. Où? Ouais, c'est bien. Oui, il y a une invitation, oui, il y a un festin. Mes frères et sœurs, si Jésus parle du festin des noces, c'est parce qu'on a besoin. On a besoin de se retrouver avec le Seigneur. Vous ne ressentez pas ça? Moi, je languis ce jour. En vêtement de fin lin. Vous n'avez pas envie? Vous aimez les beaux habits? Vous aimez les beaux habits? Eh bien, si vous n'aimez pas les beaux habits, ça va aller mal. Hein? Parce que je peux vous dire que le Seigneur, il va bien préparer les choses. Des vêtements éclatants, purs. C'est beau, non? Ah ouais, c'est écrit. On en a besoin. On a besoin de savoir qu'il n'y aura plus de cris, plus de deuil, plus de larmes. On en a besoin. cette invitation, bien sûr qu'il y a derrière toutes ces conditions, tous ces avertissements, mais c'est une grâce. C'est une grâce d'entendre ces choses et de dire c'est vrai, mais comment je suis rentré dans l'église? Moi, combien de gens m'ont dit, mais j'ai pris le baptême, mais j'étais pas né de nouveau. J'ai pris le baptême, mais j'étais pas converti. Eh oui, ils sont rentrés, mais gloire à Dieu, ils cherchaient la vérité. Et quand quelqu'un cherche la vérité, Dieu se met sur son chemin. Alléluia. N'importe qui dans le monde aujourd'hui qui se trouve, n'importe où sur la surface de la terre, s'il cherche la vérité, il rencontrera Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. N'importe qui, vous le croyez mes frères et sœurs, n'importe qui, il n'y a personne qui va se retrouver devant Dieu et qui va dire, tu sais, je t'ai cherché toute ma vie, hein, mais je ne t'ai pas rencontré. Vous croyez que ça va se passer ça comme ça? Vous croyez que quelqu'un, mais je t'ai prié toute ma vie, j'allais à l'église tous les dimanches et je ne me suis jamais approché de la croix? C'est que c'était une hypocrite. C'est que c'était une hypocrite. Parce que la Bible dit que Dieu prend pitié des misérables, de la prière des misérables. Pourquoi on est là d'ailleurs ce soir? C'est parce qu'on a, enfin je ne sais pas vous, mais moi je voulais vraiment connaître la vérité. C'est pas un peu votre prière? C'était pas votre cas? Hein, dans là où on était? Et ouais. Et le Seigneur nous a bénis. Revêtir Christ, s'appliquer à lui obéir, dire, oh ça c'est pas bien, il faut que je me corrige. Tiens, tout à l'heure j'ai parlé du vocabulaire, ça serait quand même grave si vous aviez déjà pas réfléchi à cette affaire. Mais ah, c'est vrai quand même, des fois j'ai un vocabulaire. Eh bien je vais m'appliquer. Est-ce que le Seigneur va vous aider? Eh bien oui. Me soumettre à l'autorité, dire, mais je vais apprendre. Voilà, c'est ça. Se revêtir de Christ, je fais des progrès dans tel domaine. Avant, je critiquais la ministre des Sceaux, le garde des Sceaux. Maintenant, je prie pour elle. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui sont, entre guillemets, critiquables. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas parce qu'on a des sujets de critiquer quelqu'un qu'on doit s'appliquer, qu'on doit se plaire à les critiquer. Au contraire, Seigneur, je te prie pour les membres du gouvernement. Pourquoi? Mais parce que tu me dis qu'avant toute chose, je dois prier pour eux. C'est écrit ou c'est pas écrit? Donc voilà, c'est ça, se revêtir de Christ. Ah, je me soumets à son autorité. Je cherche à connaître sa volonté. Si vous ne lisez pas la Bible, vous ne connaîtrez jamais la volonté de Dieu. C'est pour ça que Paul disait aux chrétiens de Corinthe, mais vous devriez être des maîtres et vous êtes encore des bébés. C'est pour ça que moi je vous encourage à reprendre ces textes, c'est-à-dire, tiens, mais d'accord, le pasteur il nous a dit ça, mais qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Qu'est-ce que je peux découvrir qui me permettra d'être de ceux qui vont veiller? Ce que je le dis à tous. Je vous dis, il n'y a personne qui va se trouver devant Dieu. Il y a des gens, moi des fois ça me fait pitié. Quand les gens me disent, mais moi quand je vais le voir Dieu, je vais lui dire ce que je pense. Mon Dieu, les pauvres. Mais ils se rendent pas compte. C'est de la folie et de l'aveuglement. Quand je vais le voir, je vais lui dire. Alors quand c'est des inconvertis, ça passe. Mais quand c'est des chrétiens, mais c'est des faux chrétiens. Un vrai chrétien, il ne parle pas comme ça. On en a vu quatre, il en reste trois. Les trois autres, on les verra la prochaine fois. Mais je vais peut-être vous donner les références. Vous ne voulez pas les prendre, les références? Comme ça, vous me préparez la prédication. Et vous me prêchez, et moi je vous écoute. D'accord? Ça va changer dans l'église. D'accord? Alors, prochain texte, Matthieu 24, 44 à 51. Vous allez travailler, moi je vous le dis. Il va falloir que vous y mettiez. Alors, Matthieu 24, 44 à 51, il vous faut donc me trouver le contexte de cette affaire. Le sixième texte, Matthieu 25, versets 14 à 30. Là aussi, il faut me trouver le contexte. Et le dernier texte, Luc 13, versets 22 à 30. D'accord? Vous l'étudiez, vous préparez ça. Mes frères et sœurs, veillez. Le mot d'ordre, c'est veillez. Les temps vont être difficiles. Les temps vont être enténébrés. Ça va aller de plus en plus mal. Mais vous pourrez toujours vous lever le matin en disant, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je vous souhaite de vous réveiller chaque matin avec un verset de cette trempe. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous le faites? Moi, le matin, quand je me lève, je m'impose un verset de cet acabit. Tout le matin. Quand je me lève, je m'impose un verset. C'est pas bien de se commencer la journée en disant « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Vous n'avez pas envie de vivre ces choses. Et c'est ce qui arrivera. Celui qui garde la parole, Jésus a dit, je le garderai. Hors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, éprouver tous les habitants de la terre. Moi, je trouve que ça vaut la peine de veiller. Vous croyez pas? Et s'épargner les années de tribulation et de grandes tribulations qui vont venir sur la terre. Oui, veillez, que le nom du Seigneur soit béni. On l'a fait ce soir, on continue à le faire, vous allez le faire toute la semaine. Allez, on va se recueillir, d'accord? On va se recueillir, on va lui demander au Seigneur de nous aider. Reprenez ces textes, de même pour votre culte personnel, reprenez ces textes. Faites-le, c'est ça, veillez. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Croyez-moi, et même s'il y a des combats, il y a cette paix dans le cœur. Notre Père, nous croyons que tu nous as tout annoncé à l'avance, que tout ce que nous avions besoin de savoir, tu nous l'as donné. Tu as demandé aux hommes de considérer ta bonté et ta sévérité. Et en partageant ta parole, comme nous venons de le faire, nous ne pouvons pas faire autrement, Seigneur, que de constater ta bonté et de constater ta sévérité. Nous ne voulons pas ressembler à ces hommes qui ont vécu dans l'apparence, dans l'hypocrisie, dans le manque de sainteté. Non, Seigneur, nous voulons aimer ta parole. Nous voulons faire partie de ces vierges sages, remplies d'huile, le jour où tu reviendras, ou nous prendre, ou nous enlever, qu'importe. Merci pour ces moments. Et nous voulons, c'est vrai, terminer en te priant pour toutes les églises qui n'ont pas de pasteur. Seigneur, tu vois dans la région Midi-Pyrénées, mais dans ce pays de France, de combien nous te prions de conduire, comme tu l'as fait pour Michael, pour aller à Moissac, nous te prions de conduire, Seigneur, pour que des assemblées puissent avoir des pasteurs dignes de ce nom. Seigneur Jésus, merci pour ces moments. Garde-nous et aide-nous, oui, par ton esprit, à continuellement méditer ta parole dans notre cœur. Oui, nous te remercions de savoir que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.